Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi. Alors pour ceux qui se posent la question, je le répète encore aujourd'hui, nous sommes toujours en télétravail car à Europe 1, nous avons décidé d'y aller progressivement pour le retour des équipes dans les locaux. Donc Sans Rendez-vous en studio, ça sera dans quelques semaines. Alors lui aussi, il est toujours chez lui, mais en direct à nos côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors, au menu du jour aujourd'hui, nous commencerons par interroger le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. Son service a été en première ligne dès le début de cette épidémie. Dans son département, la Seine-Saint-Denis, cela a été très intense. Alors, quel est le bilan aujourd'hui et surtout, comment voit-il les choses pour les semaines et les mois à venir? Il nous dira, aura-t-on bientôt un traitement efficace? Comment éviter une seconde vague? Nous ferons le point avec lui. Ensuite, vous le savez, dans ce rendez-vous, on continue de vous informer tous les jours, mais nous essayons aussi de vous faire du bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté et sortir un peu du coronavirus. On va s'intéresser à la santé de vos pieds. Les cabinets des pédicures podologues vont rouvrir peu à peu. Ces professionnels vont pouvoir à nouveau nous soigner les pieds quand c'est nécessaire. Mais comment aussi en prendre soin à la maison de nos petits petons, souvent négligés? Pour en parler, nous recevrons Jamel Bouhabib. Il est podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va aujourd'hui tenter de répondre aux questions du jeune femme qui va bientôt retrouver son partenaire après plus de 2 mois de séparation.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Frédéric Adnet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. On vous a eu plusieurs fois dans cette émission. Comment ça va aujourd'hui dans votre hôpital, aux urgences d'ailleurs?
Ben écoutez, pour l'instant, on souffle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de patients qui viennent aux urgences. Et de manière paradoxale, aussi bien pour le Covid-19, pour lequel il nous reste quelques patients, mais vraiment, c'est marginal. Mais aussi, de manière beaucoup plus surprenante, on ne retrouve pas les patients qui venaient d'habitude aux urgences pour les autres pathologies. Tout se passe comme si la peur de venir à l'hôpital était toujours présente, malgré une pression de moins en moins forte au niveau de l'épidémie du Covid-19.
Vous dites que pour le Covid, ça reste c'est marginal, c'est-à-dire que vous avez plus du tout de, il y a des jours où il y a plus une seule personne suspecte Covid qui arrive, ou est-ce que quand même tous les jours il y a un ou deux patients, je ne sais pas.
Voilà, on est dans ces chiffres-là. Vous savez, au pic de l'épidémie, on avait jusqu'à 100 patients par jour qui arrivaient dans des états extrêmement catastrophiques, victimes du Covid-19. Actuellement, on est autour de, on va dire, entre 2 et 4 patients par jour. Donc on a l'impression vraiment qu'on est en queue d'épidémie et que les mesures de confinement, les mesures barrières ont très bien marché. Mais peut-être qu'il y a aussi un effet de saisonnalité, ça l'avenir nous le dira. Hein. Mais en tout cas, on reste extrêmement vigilant.
Jimmy Mohamed.
Un autre point de tension, professeur, c'était les services de réanimation. Comment ça se passe désormais chez vous? Est-ce que les choses s'améliorent ou c'est toujours un petit peu compliqué?
Oui, c'est très largement amélioré. Vous savez qu'on a mis en catastrophe en route des lits de réanimation dans des services qui n'étaient pas destinés à faire de la réanimation. Habituellement, on a 16 lits de réanimation. On est monté jusqu'à 48 lits de réanimation dans notre hôpital.
Énorme.
Et on retrouve depuis hier nos capacités habituelles, c'est-à-dire 16 lits de réanimation réservés au Covid+, ce qui était...
Réservés, mais pas pleins, alors, du coup, ils sont pas pleins,
non,
en plus, ces lits. Ils sont pas pleins.
Je crois qu'il reste 2 lits de libre. Mais si vous voulez, on n'est plus du tout dans la situation où on installait des lits de réanimation partout où on pouvait pour pouvoir accueillir ces patients.
Oui, donc c'est très clair. On souffle et c'est tant mieux. Alors, ça y est, la levée progressive du confinement a démarré hier. Comment vous trouvez que ça s'est passé, notamment par rapport aux images qu'on a pu voir dans le métro? Alors, certes, tout le monde était masqué, mais beaucoup de monde quand même. Et puis même cette foule sur les images qu'on a pu voir du canal Saint-Martin. On a l'impression quand même que certains Français ont cru que c'était un retour à la vie d'avant, non?
Oui, c'est un peu ce qui nous fait peur. Hein. Donc, on pense que c'est le bon moment pour déconfiner. On pense qu'il faut le faire de manière progressive. Que maintenant, on est certain que les mesures barrières, le port du masque et la distanciation, ce sont des choses qui marchent sur cette épidémie. Et donc, effectivement, c'est un petit peu affolant de voir que des groupes de personnes sont agglutinées. Je crois que c'était au canal de Lourcq, hein, sans respecter les mesures barrières ni la distanciation. Je pense que ces mesures doivent absolument s'appliquer aux patients les plus fragiles et on les les connais bien maintenant, c'est les patients âgés, les patients qui ont des maladies chroniques, et c'est ceux-là qui sont les premières victimes de cette épidémie. Donc ça ne doit pas encore être, si vous voulez, la fête. Il faut attendre, à mon avis, 15 jours pour voir si le déconfinement va faire un rebond de cette épidémie. C'est une latence d'environ 15 jours, 3 semaines. C'est exactement le même délai qu'il y avait eu pour le confinement, pour voir les effets du confinement, des effets évidemment.
Et d'ici là, on pourra peut-être relâcher encore d'un cran d'ici 15 jours, 3 semaines encore les mesures, effectivement.
Oui, si rien ne se passe, on pourra peut-être un peu plus baisser la garde. Mais pour l'instant, restons vigilants et gardons nos distanciations et nos masques.
Docteur Jimmy Mohamed.
Justement, professeur, vous parlez des masques. Pour l'instant, ils ne sont obligatoires que dans les transports en commun et c'est un minimum. Est-ce que vous pensez qu'on devrait vraiment les généraliser dans tous les endroits clos, que ce soit les bureaux, les supermarchés et pas simplement les transports en commun ?
Oui, moi ça a toujours été ma position pour deux raisons, fondamentales. La première, c'est que si vous prenez le masque par intermittence, c'est-à-dire simplement dans les transports en commun, ça veut dire que vous allez manipuler le masque. C'est-à-dire que le masque, vous allez l'enlever, le remettre, le mettre dans la poche et donc le manipuler avec vos mains. Et là, il ne sert plus à rien puisque vous allez le contaminer avec vos mains. La deuxième raison, c'est que le principe du masque, c'est une mesure barrière complémentaire de la distanciation. Vous savez, on pense que les postillons, ils portent pas à plus d'un mètre, et c'est pour ça qu'on a dit 1,50 m. Oui, sauf que quand on tousse, ça va jusqu'à 8 mètres. D'accord ? Et donc, le masque est parfaitement complémentaire de la distanciation. Donc, dans son principe, il doit rester le masque. Et je pense que au moins pour 2 semaines, on devrait
porter le
masque
en
dans tous les endroits publics et peut-être s'habituer
en dehors de son foyer,
pour éviter de le manipuler et éviter de le rendre inefficace. Il n'y aurait rien de pire, si vous voulez, que de se sentir protégé alors qu'on ne l'est pas.
Ouais. Professeur Adné, il y a beaucoup d'experts et vous aussi, vous l'avez dit, on reste très vigilant pendant encore 15 jours, 3 semaines, qui redoutent donc une deuxième vague de l'épidémie. Vous pensez que c'est possible, effectivement, si on regarde notamment les pays qui nous ont un petit peu devancés dans l'épidémie, ils ont déconfiné pour certains, alors pas tous avec les mêmes règles, mais est-ce que vous pensez qu'on peut y échapper quand même ?
Je pense pas qu'il y aura une deuxième vague aussi importante que la première vague. Ce qu'on pourrait voir, c'est éventuellement un rebond. Vous savez, on s'est mis, et c'est une bonne chose, on s'est mis aussi dans une politique de dépistage massive. Ben, plus on va dépister, plus on va trouver des petits clusters, comme ça a été le cas hier et avant-hier. On va trouver des petits clusters, 4-5 patients, et c'est normal. C'est normal puisque on les voyait pas
parce qu'on dépistait pas autant avant aussi. Hein. C'est pour ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on les voyait pas ces clusters, mais il y en avait déjà, oui.
Voilà, on les voyait pas parce que on dépistait pas massivement comme on le fait. On dit 700 000 tests par semaine. Ça veut dire qu'on va faire ça de manière massive. Donc plus on cherche, plus on trouve. Et ces cas, tant qu'ils sont pas des cas hospitalisés, des cas graves, c'est pas très important. Ce qu'il faut
faire, c'est
les isoler, les repérer, les isoler, faire l'enquête qui doit être faite, qui est chercher les patients contacts, et puis s'occuper de ces petits clusters pour éviter qu'ils propagent le virus. Donc, c'est pas inquiétant et c'est prévisible. Ce qui serait inquiétant, c'est qu'effectivement, qu'il y ait un cluster qui nous échappe avec surtout des patients graves qu'on soit obligé d'hospitaliser. Mais actuellement, les disponibilités hospitalières permettent, si vous voulez, d'absorber maintenant un petit rebond de cette épidémie.
Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur, vous avez dit dépister et isoler. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement isoler quand on est malade dans un foyer, par exemple, à la maison ?
Alors, il y a plusieurs dispositifs et nous, on participe à l'un qui s'appelle le Covisan. C'est de dire que dès qu'on a repéré, soit par le SAMU, soit par les urgences, un patient qui est positif mais qui n'a pas de critères d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on va le laisser dans sa famille, on envoie une équipe d'accompagnement, évidemment en accord avec le patient, pour, si vous voulez, évaluer les possibilités de transmission dans la famille, proposer des mesures de barrière, c'est-à-dire qu'on va donner des masques à toute la famille, on va tester l'entourage. Et si jamais, et c'est quelquefois le cas en Seine-Saint-Denis, si jamais il est impossible d'arrêter cette transmission du virus dans la famille parce que le logement est trop petit, parce qu'il y a trop de personnes, on pourra, le cas échéant, proposer aux patients d'aller être isolés dans un hôtel. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés. Donc, si vous voulez, c'est des mesures d'accompagnement, de conseil, qui sont là pour casser, si vous voulez, ces chaînes de transmission familiale.
Merci professeur Adné, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons faire un tour du côté des pistes thérapeutiques du Covid. Où en est-on ? Tous les jours, des résultats scientifiques sortent à travers le monde sur telle ou telle molécule, efficace ou non. Le professeur Frédéric Adnet en fait justement une synthèse quotidienne de ces pistes scientifiques. Il va nous aider à y voir peut-être un peu plus clair sur ce qui est vraiment prometteur ou pas. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Frédéric Adnet. Je rappelle que vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. Alors je voulais qu'on balaye un petit peu avec vous, professeur, les différentes pistes thérapeutiques sur lesquelles les médecins travaillent. Je sais que vous faites régulièrement une synthèse des différents résultats publiés pour vos confrères à travers le monde et par vos confrères à travers le monde. D'abord le combo, évidemment, hydroxychloroquine plus antibiotiques du professeur Raoult. On en est où ? Parce qu'il y a eu pas mal d'études, je crois, ces derniers jours. Hein.
Écoutez, on n'a pas encore une preuve absolue que ça marche ou que ça ne marche pas. Il y a deux études négatives qui viennent de sortir. Une étude sur un modèle animal qu'on connaît bien, le SARS peut infecter le singe, et il y a un modèle animal chez le macaque pour lequel ils ont été traités par l'hydroxychloroquine, plus ou moins de l'azithromycine, et qui ont montré que ça n'avait aucune influence sur le développement de la maladie. Donc c'est une étude très négative. Et ouais. Une autre étude qui vient d'être publiée hier sur 1500 patients à New York. Alors c'est une étude observationnelle, donc qui n'est pas, si vous voulez, associée à un grand niveau de preuve, mais qui là aussi a montré qu'il n'y avait pas d'influence sur la mortalité avec ces molécules.
Bon. Pas d'influence, mais est-ce que ça nuit éventuellement ? Parce que ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'il y a des effets secondaires potentiellement ? Je ne sais pas.
Ben oui, parce que le taux d'arrêt cardiaque dans le groupe hydroxychloroquine était significativement supérieur par rapport aux patients qui n'avaient pas cette molécule. Alors là aussi, hein, je ne donne pas une relation de causalité, puisque c'est un essai qui était
des
observations. Hein.
C'est
donc,
ce qui est observé.
Je vais pas non plus rentrer dans le travers qui a été dit sur les études du professeur Raoult. C'est une observation et les auteurs le disent très bien. Mais c'est quand même un résultat qui n'est pas en faveur de l'hydroxychloroquine.
Pour l'instant, à suivre. Donc, Jimmy.
Donc en curatif, pour l'instant, ça n'a rien prouvé. En préventif, le professeur Raoult disait qu'il fallait en donner massivement et quasiment systématiquement. Est-ce qu'on sait, notamment chez des patients qui ont déjà ce genre de traitement, la chloroquine, chez par exemple les patients qui sont traités pour un lupus, est-ce que ces gens-là vont mieux ? Est-ce que ça leur confère une protection vis-à-vis de cette infection ?
Oui, mais là aussi, hein, une étude a été faite sur une centaine de patients qui avaient un lupus et qui étaient sous hydroxychloroquine, et malheureusement, il n'y avait aucune influence par rapport aux patients qui avaient un lupus et qui n'avaient pas cette molécule. Ils avaient le même taux de maladie, le même taux de maladie grave. Donc là aussi, les études sont plutôt négatives.
Sur les autres pistes, parce qu'il y en a beaucoup, elles sont nombreuses, on ne peut pas toutes les citer aujourd'hui, mais il y a notamment d'autres antiviraux, oui. Notamment des anti-VIH,
exactement,
qui sont testés. Est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'il y en a un qui serait plus efficace qu'un autre ?
Alors, chacun individuellement ne montre pas une efficacité claire, en tous les cas, pas publiée à l'heure actuelle. Par contre, un essai vient d'être publié qui associe, un peu comme pour le sida, vous savez ce qui a vaincu le sida, c'était une association d'antiviraux. Voilà, c'est une trithérapie qui associe effectivement les molécules que vous avez citées, l'interféron, des molécules anti-VIH, une molécule antigrippale, donc une espèce de trithérapie.
Un cocktail d'antiviraux, ouais, d'accord.
Exactement, qui a montré qui n'avait pas d'effet sur la mortalité, mais qui a montré que le virus, on se débarrassait du virus beaucoup plus vite, en moyenne 4 jours avant le groupe qui n'avait pas ce traitement. Mais c'était des patients qui étaient peu graves, donc avec une très faible mortalité, il n'y avait pas de différence sur la mortalité. Donc si on fait le lien entre le fait de se débarrasser rapidement de ce virus et le fait de moins mourir, alors cette trithérapie sera vraiment intéressante.
Docteur Jimmy Mohamed.
La PHP avait communiqué de façon un peu particulière un essai qui semblait prometteur sur le tocilizumab, un médicament qui est utilisé en rhumatologie. Est-ce qu'on a un petit peu plus de recul, notamment dans le monde ? Est-ce que ça marche, ce genre de traitement ?
Non, écoutez, il y a eu un communiqué de presse qui était un peu précipité. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Il y a une espèce de blackout sur cet essai, donc on ne sait pas encore si cet essai sera positif ou négatif. C'est vrai que la communication a été un peu précipitée, et donc on va attendre la fin des inclusions de patients pour pouvoir vraiment regarder ce qui s'est passé.
Bon, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les molécules qui sont en cours d'évaluation jour. Mais selon vous, est-ce qu'il y a une piste qui est plus... Oui, allez-y, voilà, c'est ça, exactement.
Oui, alors si on pouvait faire une synthèse, actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une molécule antivirale qui marche de manière individuelle qui va tuer le virus. Il y a une autre approche qui est en train d'émerger, c'est les anticorps. Des anticorps de synthèse qu'on synthétise à partir d'animaux qu'on immunise et qui pourraient marcher, c'est-à-dire que in vitro et dans quelques modèles animaux, ils arrivent à bloquer le SARS-CoV-2, qui est le virus
avec le lama, notamment,
de la maladie COVID-19. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle piste et ça commence, les résultats commencent à tomber. Mais il faut encore, un peu comme le vaccin, il faut encore un certain temps pour pouvoir faire les essais humains et surtout la mise en production de ces immunoglobulines.
Bon, on a compris à ce stade, il n'y a pas un médicament, on n'a pas trouvé le traitement efficace à 100% contre cette maladie.
C'est toujours les mesures symptomatiques, c'est l'oxygène, la ventilation. Par contre, on a beaucoup progressé dans les protocoles de ventilation de ces patients. Avant, on intubait peut-être un peu trop vite ces patients. Actuellement, on a modifié ces protocoles et on pense qu'on a pu baisser comme ça la mortalité des patients en réanimation. Donc, c'est toujours du traitement symptomatique, mais du traitement symptomatique...
Mais on a progressé, on les prend mieux en charge qu'au début, hein, c'est ça.
Exactement,
on les prend mieux en charge qu'au mois de début mars. Quoi.
Ouais. C'est mieux codifié et les indications sont mieux cernées chez ces patients qui présentaient une pathologie qui est complètement nouvelle pour nous.
Pour terminer avec vous, comment vous voyez les choses pour l'été à venir? C'est vrai qu'il commence, les beaux jours arrivent, tout le monde se pose la question. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on sait que début juin on devrait en savoir plus. Vous imaginez quoi à ce stade pour l'été, pour les Français?
Bah écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais je suis d'un naturel optimiste. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Quand on voit que dans certains pays, le virus a du mal à prendre, quand on voit l'histoire naturelle des épidémies grippales, ça nous fait un peu moins peur d'une deuxième vague qui viendrait nous submerger. Donc, moi, je pense qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines pour voir s'il y a un rebond. Et que si ce virus devient vraiment à un profil vraiment saisonnier et que les mesures barrières ont été efficaces, je pense qu'on pourrait encore un peu lever les mesures barrières pour l'été et passer un été un peu plus normal que ce qu'on l'imagine à l'heure actuelle.
Donc, merci beaucoup, professeur. On est très contents. On espère que vous avez raison et que votre boule de cristal va fonctionner pour qu'on puisse passer un été un peu plus tranquille. Merci beaucoup, professeur Adnet, d'avoir été avec nous.
Merci
pour votre pédagogie. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles nombreuses que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. À présent, Jimmy, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes des questions que l'on reçoit ici, des auditeurs d'Europe 1, des questions que vous nous laissez au 39-21. On va commencer par la question de Bénédicte, on l'écoute.
J'aimerais savoir comment les ostéopathes vont pouvoir reprendre leur activité et qu'est-ce qui devrait être mis en place dans leur cabinet. Merci beaucoup. Au revoir.
Bon, ostéopathe, Jimmy, j'imagine que, je ne sais pas si on sait en particulier ce qu'ils vont faire eux dans cette profession-là, mais c'est un peu comme tous les médecins et professionnels de santé libéraux. Je crois qu'ils prévoient tous beaucoup de mesures de sécurité, non ?
Oui, exactement. C'est comme dans les commerces finalement ou chez le cabinet de votre médecin. Désormais, il va y avoir moins de monde en salle d'attente. On va condamner des sièges pour éviter qu'on soit collés tous les uns aux autres. Surtout quand les salles d'attente sont partagées avec d'autres professionnels de santé. C'est souvent le cas pour les ostéopathes. Et puis, le port du masque va être évidemment déployé. Surtout que à la base, les ostéopathes ne pouvaient pas recevoir les masques en pharmacie. Ils étaient exclus du dispositif et désormais, ils peuvent enfin récupérer. Ce qui veut donc dire qu'ils vont pouvoir se protéger les autres et très certainement qu'on vous demandera lors d'une séance, de mettre vous aussi un masque pour vous
d'arriver
protéger.
D'arriver avec un masque même, ouais.
Exactement. Donc que tout le monde ait son masque. Vous rappelez qu'un cas contact, c'est lorsqu'il y a un contact rapproché à moins d'un mètre, c'est le cas pour l'ostéopathe, durant plus de 15 minutes. Et donc forcément, à ce moment-là, vous êtes potentiellement à risque. Mais si vous portez votre masque, que l'ostéopathe en porte, que vous vous lavez les mains, qu'il n'y a pas de monde dans la salle d'attente, on va pouvoir très certainement reprendre un peu le cours normal de nos vies.
Très bien. Alors Jimmy, on va prendre une autre question qui nous a été laissée sur Twitter sur le hashtag Radio Ouverte par John RCS de son pseudo, j'imagine. Il nous demande donc s'il peut se faire tester au coronavirus avant de se rendre chez ses parents en toute sécurité, sachant qu'il a un fils de 18 mois, peut-être lui aussi porteur asymptomatique, qui sait. Jimmy, alors tout dépend de quel test il parle, non ?
Oui, si on parle du test PCR, le prélèvement dans le nez, celui-ci est remboursé, il coûte une cinquantaine d'euros, et donc sur prescription médicale, toute personne qui a des symptômes, pour l'instant, on en est là, c'est-à-dire que vous toussez, vous avez de la fièvre, vous êtes gêné pour respirer, vous avez eu la perte du goût et de l'odorat, à ce moment-là, vous pouvez être dépisté, ou enfin, si jamais vous avez été en contact avec quelqu'un de malade, en revanche, pour l'instant, on ne va pas à la pêche à des tests, puisqu'il faut rappeler que ces tests ne sont pas fiables à 100%, on sait qu'il y a une sensibilité de 70%, ce qui veut donc dire que vous faites un test, il est négatif, vous vous sentez protégé, vous pensez que vous n'êtes pas porteur de la maladie, vous allez peut-être contaminer des personnes, surtout que vous pouvez être contagieux durant la période d'incubation, c'est-à-dire que 48 heures avant d'avoir des symptômes, vous pouvez transmettre la maladie. Donc je pense que c'est une mauvaise stratégie de se faire dépister pour essayer d'aller voir ses proches. Je pense que si vous décidez d'aller les voir, il faut se protéger. Et pour l'instant, on ne recommande pas non plus de faire tester les enfants de 18 mois, en tout cas pas sur le prélèvement nasal.
Et quoi qu'il en soit, il parle de ses parents, donc je ne sais pas quel âge ils ont, effectivement, mais tout dépend leur âge aussi, il faut les protéger, effectivement, particulièrement, et donc ne même peut-être pas y aller tout de suite, hein, si vraiment ils sont malades aussi, par exemple, hein, malades chroniques ou autres, hein, on est d'accord.
C'est vrai que c'est délicat, on n'a pas de réponse à apporter, honnêtement. Le gouvernement appelle à la plus grande prudence, peut-être qu'il faut être un petit peu patient, mais pour l'instant, rien n'est très clair, il faut être tout à fait honnête.
Bon, allez, on va prendre une autre question qu'on a reçue au 3921, c'est celle de Bernard, on l'écoute tout de suite.
Je me promenais hier et je suis passé à 10 mètres à peu près d'un vapoteur. J'ai senti très nettement, j'étais masqué, mais avec un masque assez simple en tissu, fait par quelqu'un, pas une amie. J'ai senti très nettement le parfum du vapotage. Est-ce que c'est risqué si cette personne avait le coronavirus ? Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
Alors Dimi, on nous avait posé la question déjà pour la fumée de cigarette. Est-ce que pour les vapoteurs et donc la vapeur diffusée par une vapoteuse, donc Dimi, est-ce qu'il y a un risque éventuellement de contamination si le vapoteur est lui-même positif au coronavirus ?
Dans l'état actuel des connaissances, c'est non. Le Comité national de lutte contre le tabagisme avait fait un communiqué un peu dans le sens inverse en disant que les particules présentes dans la vapeur exhalée par les vapoteurs infectés pourraient être potentiellement porteuses du virus et être à l'origine de nouvelles contaminations. C'est pas vraiment le cas. Le gouvernement a dit qu'il n'y avait aucune preuve à ce jour de cette contamination. En revanche, attention, qui dit fumeur dit potentiellement quelqu'un qui va tousser. Et donc à ce moment-là, on peut propulser du virus au travers des gouttelettes salivaires, mais il n'y a pas de preuve que le vapotage ou même le tabagisme passif puisse transmettre la maladie.
Allez, une dernière très rapide, Jimmy, c'est celle de Stéphanie qui nous a écrit pour nous demander si elle peut envisager d'organiser ce week-end un petit pot entre amis chez elle pour fêter la fin du confinement. On devrait être 8, dit-elle, donc dans les clous, mais est-ce risqué ? Alors Jimmy, vous, je crois que les pots post-confinement, ça vous agace un peu, hein ?
Ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a vécu une période particulière. On a besoin de se retrouver. C'est vrai que ça a été difficile. Parfois, on a été confinés pour certains dans des petits appartements et c'est le moment où on veut recélébrer un peu ce déconfinement. Mais là, on fête pas le nouvel an, on fête pas Noël. On fête simplement peut-être un retour presque à la normale. Moi, je vous conseille d'être vraiment très prudent. On avait dit qu'il ne fallait pas de regroupement à plus de 10, 8. On est dans les clous, mais c'est pas forcément raisonnable. Surtout que l'appartement sera peut-être pas adapté. Je pense qu'on risque de se contaminer.
En extérieur, éventuellement, c'est peut-être mieux.
En extérieur, ça peut se faire, oui, franchement, ouais. Ça me choque moins. Je suis moins choqué par l'extérieur que dans des appartements parce que forcément, on va être proche, on va pas forcément aérer les choses.
On partage un buffet, on touche, là, on met la main dans le pot de chips tous ensemble. C'est des risques, ça, à chaque fois.
Autant on peut avoir du lien social, autant on peut discuter, mais là, 8, je pense qu'il faut être prudent. Si on veut peut-être avoir une meilleure perspective avec un été un peu plus favorable, il faut être un peu patient. Moi, je dirais 2-3, c'est déjà pas mal. Ou en extérieur, comme vous le dites, Mélanie, je pense que c'est plutôt une meilleure alternative.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Et aujourd'hui, on va sortir un peu du coronavirus. On va s'intéresser à une partie de notre corps qu'on a tendance à négliger, nos pieds. Mais avant ça, vous l'avez entendu, elle est déjà là, la musique sur Europe 1, avec le groupe The Cure et leur morceau In Between Days. bien un peu de musique sur Europe 1. C'était le groupe The Cure et leur titre In Between Days sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. À présent, nous allons passer à la partie bien-être de cette émission. Et aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté et s'intéresser à autre chose, un petit peu que le coronavirus. Évidemment, on continue d'en parler, mais là, on passe à la deuxième partie. Donc, on va parler de notre corps, d'une partie du corps qu'on a tendance à négliger. Pourtant, ils nous sont indispensables, nos pieds. Bonjour, Jamel Bouhabib.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Ravi de vous recevoir en ligne sur ce plateau. Vous êtes pédicure-podologue et président de l'Union française de la santé du pied. D'abord, quand même, un mot sur le contexte actuel. Vous, les pédicure-podologues, vous pouvez rouvrir vos cabinets, j'imagine, depuis hier. C'est-à-dire que pendant tout le confinement, les soins de pédicurie ont été totalement à l'arrêt ou pas ?
Alors, absolument. Il faut savoir que la profession donc a baissé le rideau, comme on dirait, depuis le 15 mars. Et parallèlement à la fermeture de tous les cabinets en France, donc les podologues, solidairement, ont donné gratuitement aux soignants en première ligne donc tout notre stock de gants, de masques et de gel hydrocolloïde. Donc, on s'est retrouvés à la reprise, c'est-à-dire hier, sans absolument aucun produit. Donc effectivement, nos cabinets sont ouverts depuis le 15 mars. Depuis hier, le 11 mai.
Et il faut refaire les stocks quand même de gants et tout ça, j'imagine. Alors peut-être que ça va rouvrir progressivement et peut-être pas tous les pédicures podologues en même temps. Vous avez quand même réussi à continuer à suivre éventuellement les personnes âgées ou les diabétiques surtout, qui font quand même partie de votre patientèle et qui, eux, ont besoin souvent de façon indispensable de vos soins.
Oui, alors la profession a monté ce qu'on appelle donc les SUP, c'est-à-dire les structures d'urgence podologique, avec une prise en charge donc exclusivement réservée à des patients donc à risque. Alors je pense notamment donc aux patients diabétiques, aux patients artéritiques et tous les patients qui présentent donc des plaies infectieuses et inflammatoires, mais principalement effectivement donc des patients diabétiques qui eux présentent véritablement un risque pathologique avec des plaies qui sont souvent pas très jolies à voir, difficiles à soigner, et donc forcément c'est une population qui avait vraiment besoin de nos soins, et donc ces structures d'urgence podologique sont tombées à point nommé.
Jimmy.
Oui, justement, parce qu'on s'inquiète du fait de ne plus revoir pour l'instant de patients chroniques dans les cabinets. Est-ce que vous, de la même façon, vous craignez que, par exemple, un patient diabétique qui a laissé traîner une plaie ou autre chose pendant ces 2 mois de confinement va avoir des conséquences peut-être péjoratives, et donc vous les invitez justement à consulter rapidement un podologue ?
Oui, absolument. Alors moi, personnellement, depuis que j'ai repris possession de mon cabinet, j'ai réservé les 2 premières journées donc à la prise en charge des patients diabétiques. Donc depuis hier, je ne vois que des patients diabétiques. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont pas très très réjouissantes à voir. Oui, c'est des patients, notamment les patients grade 2 et grade 3, qui nécessitent des soins tous les 2 mois, voire tous les 3 mois. Qui n'ont pas vu de podologue depuis 3 mois, 4 mois, et qui sont vraiment dans un état d'urgence podologique absolument important. Et je pense qu'effectivement, donc, les recevoir en priorité dans les cabinets est vraiment nécessaire, parce qu'on va avoir des complications extrêmement importantes sur ce type de patient. Donc là, c'est vraiment une urgence podologique absolue.
Quelles précautions, très concrètement, vous allez prendre dans vos cabinets pour recevoir ces patients-là, qui sont de fait des patients fragiles à cause de leur maladie chronique, déjà ? Vous allez faire espacer les rendez-vous ? Enfin, c'est quoi les mesures qui sont prises chez vous ?
Alors, si vous voulez, on a donc adopté pour l'ensemble de la profession donc de nouvelles règles professionnelles qui consistent déjà donc à interroger les patients au téléphone pour savoir s'ils présentent des symptômes, est-ce que vous toussez, est-ce que vous avez de la fièvre. La prise de rendez-vous est obligatoire, un patient ne peut plus venir directement au cabinet. Le nombre de patients dans les salles d'attente est restreint, on respecte même au niveau des chaises donc ce qu'on appelle la distanciation, c'est-à-dire qu'il y a plus d'1 mètre, 1 mètre 50 entre 2 patients. Et le port du masque est obligatoire. Voilà, pour tous les patients, le port du masque est obligatoire. Le port du masque et bien entendu, toute la panoplie complétée est obligatoire pour le podologue. Et bien entendu, il y a ensuite tout ce qui va être règles d'hygiène, d'asepsie dans nos cabinets. Les podologues utilisent, pour la quasi-majorité d'entre eux, avec les chirurgiens dentistes depuis des années, donc des autoclaves. Il y a aujourd'hui donc le port de masques, de gants, de charlottes, de blouses, de surblouses et de chaussures lavables ou changeables tous les jours, avec donc des protections spécifiques. Donc oui, la profession s'est préparée de façon absolument solidaire et unanime pour recevoir les patients dans des règles d'hygiène et de sécurité les plus draconiennes, je crois.
Docteur Jimmy Mohamed.
Ça va faire 2 mois que Mélanie est en pyjama et en chaussettes, qu'elle n'a pas mis de chaussures et encore moins de talons, comme beaucoup d'autres. Est-ce que ça peut changer quelque chose pour nos pieds ?
Oui, parce que ces pauvres pieds, vous le savez, vous l'avez dit en préambule, sont souvent les grands abandonnés de notre santé. Donc là, ils ont été plutôt à l'aise en chaussons, en pantoufles, en tongs, parfois en baskets. Et reprendre la vie active avec les chaussures, et je pense notamment aux femmes avec des chaussures très esthétiques, avec un petit talon, etc., ça rend la chose compliquée. Donc oui. Donc là, oui, effectivement, on va... Oui, voilà. Donc, on va avoir toute la panoplie classique avec des patientes qui vont présenter, donc, dans un premier temps, des ampoules, des zones de friction, et puis très rapidement, des corps, des durillons qui vont être douloureux, parfois des complications au niveau des ongles, parce que souvent, les ongles sont mal coupés, et donc, ce qu'on appelle les ongles incarnés, onychotryptoses, qui sont extrêmement douloureux. Donc oui, de toute façon, on le voit avec le type de patient que nous avons aujourd'hui au téléphone pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est vraiment des soins importants, des soins presque d'urgence pour les gens qui vont venir à partir de demain et qui sont motivés par le fait que les gens ont mal. Après, vous avez toute la panoplie de gens qui viennent parce que pendant 2 mois, les pieds n'ont pas été hydratés, n'ont pas été entretenus, qui vont présenter donc ce qu'on appelle des ragades, des sortes de crevasses. Donc, justement, il va falloir également traiter.
Vous allez nous expliquer ça dans un instant. On va s'arrêter quelques minutes. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de la santé de vos pieds. Comment les garder en pleine forme avec les beaux jours qui arrivent? On va leur faire prendre peut-être un peu l'air aussi. Alors, comment se débarrasser de la corne ou éviter les ongles incarnés? On vous dit tout dans quelques toutes petites minutes. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est toujours en ligne avec nous, Jamel Bouhabib. Vous êtes pédicure podologue et président de l'Union française de la santé du pied. Alors vous l'avez dit, hein, on n'a pas mis de chaussures pour certains, ou on n'a pas pris de soin de nos pieds pendant 2 mois. Alors justement, avec vous, on va voir comment on peut leur apporter quelques soins, même à la maison. D'abord, il faut quand même prendre conscience, je pense, on va le rappeler, c'est une petite généralité, mais c'est important que nos pieds, finalement, on les néglige, mais de façon quand même hallucinante. Ils sont hyper sollicités tout au long de la vie. Hein.
Oui, alors moi, je voudrais rappeler des choses qui sont absolument basiques. Nos deux pieds nous servent déjà à nous tenir debout, à marcher, à courir tout au long d'une vie. Et peu de gens le savent, mais au cours d'une existence, entre guillemets, normale, on pratique à peu près le tour du monde 2 fois et demi.
Wow.
Souvent, je pense qu'on devrait s'interroger pour connaître aujourd'hui le mode de transport le plus économique, le plus écologique et celui qui demande finalement le moins d'entretien et économiquement, eh bien, qui ne nous coûte pas grand-chose, ben, je vous le laisse en mille, c'est le pied. Donc avec nos pieds, lorsqu'ils sont bien entretenus, nous parcourons 2 fois et demi le tour de notre planète. Donc ça, c'est quelque chose
d'extraordinaire. 2 fois et demi, c'est dingue. Jimmy, il fait qu'une fois pas pour toute la vie parce qu'il marche pas beaucoup. Mais nos pieds, Monsieur Bouhabib, d'abord, vous dites qu'il faut qu'ils soient entretenus quand même un minimum. Et les entretenir, c'est déjà bien se couper les ongles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il faut bien se couper les ongles, à quel rythme il faut les couper et ce qu'il faut éviter sur ce point-là?
Alors, ce qu'il faut éviter, premier avertissement, c'est chez les patients diabétiques et artéritiques, il faut absolument éviter de le faire soi-même parce que le moindre risque de blessure peut entraîner des conséquences relativement graves, hein, je pense notamment aux amputations. Même si les amputations ont diminué ces dernières années grâce à la prévention en podologie, mais c'est grosso modo encore entre 8 et 10 000 amputations du pied chez le patient diabétique. Donc, extrêmement prudent. Sinon, la coupe d'ongles, eh bien, elle se fait au moins une fois par mois avec une instrumentation adaptée, c'est-à-dire une pince en principe. On se coupe les ongles le plus droit possible et on va éviter d'aller dans les coins. On va vraiment éviter d'aller tripoter dans les coins. C'est le meilleur moyen de se déclencher des ongles incarnés. Il faut savoir une chose, la plupart des patients qui consultent le podologue pour justement des ongles incarnés sont des patients qui ont eux-mêmes déclenché donc cette pathologie, tout simplement parce qu'ils se sont mal coupés, mal entretenus les ongles. Donc, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout le monde n'a pas la mobilité articulaire, notamment au niveau des hanches, au niveau du bassin, et tout le monde n'accède pas...
Allô? Oui, je crois qu'on vous a perdu. Alors, donc Jimmy, bon, les ongles, on était en train de parler des ongles des pieds. Il allait dire, je pense, la mobilité articulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de se pencher toujours pour couper les ongles. Et donc pour ça, vous conseillez, j'imagine, à vos patients diabétiques d'aller régulièrement, très régulièrement, même juste pour se faire couper les ongles chez le podologue, hein, c'est très important.
Oui, bien sûr, parce que souvent, plus de mal à se baisser, hein. Bah oui, et surtout que les personnes âgées sont souvent celles les plus fragiles, puisque avec le temps, l'ongle est de moins bonne qualité. Donc évidemment, je recommande d'aller le plus souvent possible chez le podologue sur prescription de temps en temps.
Alors, vous n'êtes pas toujours pas revenu. On essaie de récupérer donc Jamel Bouhabib pour cette technique, pour parler donc de nos ongles de pied, de nos pieds. On essaie de le récupérer. Est-ce qu'il est là? J'attends des nouvelles du côté de la régie. Non, il n'est toujours pas là.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que justement chez les patients diabétiques, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps des patients diabétiques? C'est puisque lorsqu'on a du diabète, le sucre détruit les petits nerfs périphériques, ces petits nerfs qui vous donnent la sensibilité et qui font que dès lors que vous avez une petite plaie, normalement, vous avez un signal de douleur et ce signal de douleur doit vous alerter pour vous dire qu'il faut désinfecter, qu'il faut faire quelque chose. Or, chez les patients diabétiques, eux, ils perdent ce signal. Et donc, par conséquent, ils ont des plaies qui vont évoluer de façon très importante. En plus de ça, ils ont une peau qui est de moins bonne qualité. Ils ont une altération de ce qu'on appelle la microcirculation artérielle qui fait que la moindre petite plaie va prendre des conséquences plus importantes. Raison pour laquelle c'est vraiment un cœur de cible pour les podologues.
Alors Jamel Bouhabib, je crois que vous êtes de retour avec nous. On va du coup malheureusement raccourcir un tout petit peu l'interview, mais passer quand même aux soins des pieds finalement au quotidien, de ce qu'on peut faire vous et moi quand on n'a pas forcément de problèmes particuliers. Qu'est-ce qu'on doit penser finalement des râpes, pierres ponces, tout ce qu'on trouve un peu partout, y compris en supermarché, pour soi-disant adoucir la peau des pieds, c'est bien ou pas?
Bon, alors j'allais dire qu'à partir du moment où on décide de s'occuper déjà de ses pieds, c'est déjà une bonne initiative, c'est un bon geste. Après, attention à trop d'automédication, notamment on vient d'en parler chez les patients diabétiques et artéritiques. Les recommandations, elles sont simples, hein, c'est une fois tous les 10 jours, on peut avec une petite pierre à poncer, bien entendu, aller frotter donc les zones d'hyperkératose au niveau des talons. Mais le geste essentiel, me semble-t-il, c'est vraiment de procéder à une hydratation régulière des pieds, ça fait partie de l'entretien. Ça évite toute cette petite misère de type rugose, callosité qu'on peut avoir et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. On prend la peine de se laver les pieds correctement, de bien essuyer les pieds, j'insiste là-dessus, bien essuyer les pieds, en insistant bien entre les espaces interdigitaux pour éviter la prolifération de mycoses, de champignons. C'est pas très sympa à voir, c'est difficile parfois à traiter. Voilà, mais le principal conseil que l'on peut donc effectivement donner, c'est bien penser à l'hydratation. D'ailleurs, hydratation qu'on peut recommander chez les femmes, bien entendu, mais également chez les hommes qui, malheureusement, souvent ne le font pas et qui sont moins enclins à montrer leurs pieds, bizarrement.
Bon, vous savez quoi? On a peu de temps, on n'a plus de temps malheureusement, c'est comme ça. Donc on vous réinvitera, je pense, très prochainement pour faire une émission peut-être plus complète sur la santé de nos pieds. Merci beaucoup Jamel Bouhabib d'avoir été avec nous pour tous vos meilleurs conseils, pour chouchouter nos pieds, on a compris l'essentiel. Et puis on vous réinvitera très bientôt. Merci encore.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec le tout dernier single de la chanteuse Camélia Jordana. Ça s'appelle Facile.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance. Tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens. Ouvre tes yeux, prends. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte. J'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile. Presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je m'en ouvre les yeux grands, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse.
C'était le titre qui signe le grand retour de la chanteuse Camélia Jordana, un morceau intitulé « Facile ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle nous rejoint en ligne, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question de Raphaël. Raphaël nous a écrit la chose suivante. Après 2 mois d'éloignement, je m'apprête à revoir mon amant ce week-end. J'appréhende un peu nos retrouvailles. Je crains que nous ne soyons plus aussi complices qu'avant. Qu'en pensez-vous ? Catherine, sans vous se voir pendant 2 mois, c'est beaucoup pour tout le monde. Mais est-ce que c'est assez pour perdre quand même sa complicité ? Je ne sais pas depuis combien de temps elle est avec son amant. Parce qu'apparemment elle nous précise que c'est son amant. Mais 2 mois, ça va quand même, non ?
Oui, bien sûr, mais ça rend compte de son interrogation quant au besoin qu'elle aurait de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'elle a pu faire pendant 2 mois sans, et tout d'un coup, il va falloir le retrouver comme si finalement la relation ne tenait qu'à cette notion de besoin et de complémentarité nécessaire pour son équilibre à elle. Or, son équilibre s'est trouvé pendant 2 mois, et du coup, elle suppose que la complicité ne serait plus et que la nécessité ne serait plus. Alors que la relation ne se peut pas se résumer à une histoire de besoin, si d'ailleurs tel est le cas, sans doute rend compte de cela, mais bien d'une relation qui s'établit, qui s'enrichit, où chacun s'alimente de ce qu'il est spécifiquement, de tout ce qui s'est passé pour l'un et pour l'autre pendant ce temps de confinement, de ce qu'ils ont donc à s'apporter de nouveau, et pas simplement vivre sur le passé et le passé de cette complémentarité. Il y a tout à créer, justement.
Jimmy Mohamed.
Tout à créer, on parle de relations quand même.
Ah, j'adore Jimmy, vous avez toujours
sûr. Je l'entendais ruminer à son côté.
Bah, c'est quand même une maîtresse qui va retrouver son amant, quoi.
Voilà, c'est mon côté bougon, ma joie de vivre qui prend le dessus. Mais alors, j'ai tenté d'élargir un tout petit peu le cadre, mais est-ce que justement les retrouvailles avec son amant ou avec son épouse légitime est malgré tout parfois chamboulée parce que désormais le climat est particulier, on a porté des masques, on a peur du virus et donc on vit une situation un peu stressante, non?
Bien sûr qu'on vit une situation stressante. D'abord, je précise qu'un amant n'est pas nécessairement un homme marié, oui, et ce n'est pas nécessairement une femme qui parle en tant que femme mariée. Être amant ne veut pas dire qu'on est dans l'infidélité, Jimmy. Hein.
Autant pour moi.
C'est une relation sexuelle consommée de deux personnes qui vivent chacune de leur côté, et pas nécessairement qui sont dans la faute. Donc rassurez-vous.
Pardonnez-moi, Catherine, je suis au vieux jeu. Désolé. Oui,
voilà,
oui,
vous bougonnez, je vous entends comme ça. Voilà. Donc...
Mais ça peut quand même être difficile. La masque, virus, peur, on est peut-être un peu stressé.
C'est sûr, on est stressé. Je crois que pour
retrouver son amoureux, que ça peut être son amant, son amoureux.
Cette spontanéité, cette liberté est à recréer. Et évidemment qu'il faut faire avec ce que la peur du virus, ce que l'injonction de toutes les sécurités et à mettre en place, évidemment, qui sont à respecter. Comment on va pouvoir tout d'un coup assouplir cela d'une façon pérenne. Évidemment que ça vient un peu chambouler les relations, et ce d'autant plus, encore une fois, que pendant 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'autre pense toujours à moi? Est-ce que j'ai toujours pensé à l'autre? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Donc c'est en ce sens que je dis qu'il va falloir créer une nouvelle relation sur la base d'une relation existante. Donc il va falloir faire preuve d'imaginaire et avancer pas à pas, petit à petit, dans le lien à l'autre. Et peut-être que justement les nécessités de distance dans un premier temps, eh bien, donneront l'excuse du temps qu'il nous faut pour nous réapprivoiser, parce que ce n'est pas parce qu'on a été amant joyeusement et spontanément qu'il faut tout d'un coup se ressauter dessus. Il y a eu 2 mois qui se sont produits là dans le cadre.
J'allais dire, ils ont qu'à aller au resto d'abord, mais non, c'est fermé, donc
voilà. Donc non, mais ils peuvent faire un pique-nique. Il va faire un pique-nique. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, imaginons que ce ne soit pas une histoire de peur, de virus, etc., mais que l'un soit parti à l'étranger pour travailler, eh bien, il faut un temps pour se réapprivoiser, il faut un temps pour se redécouvrir le corps de l'autre, l'odeur de l'autre, la peau de l'autre, et aller progressivement de douceur et de sourire pour aller petit à petit rentrer et laisser l'autre rentrer dans sa bulle. Voilà, c'est aussi joli. Il va y avoir certainement des pudeurs à rebousculer, et donc des conquêtes à faire, et ça c'est chouette, puisque finalement on se rend bien compte que ce qui fait tout l'élan des relations, c'est aussi ce passage de la difficulté entre pudeur et impudeur accordée, ou liberté, voile levée. Donc voilà, c'est une occasion. On peut avoir peur, mais justement, n'ayons pas peur de nos peurs. La peur n'annule pas le danger. Allons vers la vie, allons vers l'autre, et il sera toujours temps de mesurer ce qui est possible ou ce qui ne l'est plus.
Merci beaucoup Catherine pour votre optimisme. Et moi, donc un amant, hein, c'est pas forcément une relation extra-conjugale, on aura au moins retenu ça, Jimmy, vous avez compris.
Et arrêtez de bougonner, Jimmy, hein.
Merci beaucoup Jimmy aussi, on se retrouve bien sûr demain à 15h. Vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je cède la place à Mathieu Noël et à son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.